France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Thomas Bangalter. À 19h40, Affaires critiques, Lucille Comeau nous parlera de l'exposition Basquiat-Warhol à quatre mains à la Fondation Louis Vuitton. 19h45, Affaires en cours par Marais Sorbier. Une autre exposition, on va s'intéresser à Anna Eva Bergman avec Hélène Leroy, commissaire de cette exposition. 19h50, Affaires à suivre avec Tatiana Villela dos Santos, qui est en résidence à la Villa Albertine aux États-Unis. Le tout est réalisé par Sam Bakiast avec Étienne Rouche et Timothée Hubert à la prise de son. Bonsoir Thomas Bangalter.
Bonsoir Arnaud.
Très heureux de vous accueillir alors que est sorti aujourd'hui même votre album Mythologie. Elle est sortie chez Erato, le ballet Mythologie dans l'imprèche locale dont vous avez donc signé la musique sera donné du 8 au 11 juin à la Criée, Théâtre National de Marseille. Je signale également la réédition à venir de l'album Random Access Memories de Daft Punk chez Columbia le 12 mai, c'est pour l'actualité mais... Vous le savez, dans cette émission, on aime revenir sur les parcours, savoir quelles sont les sources d'influence des artistes que nous recevons et surtout savoir comment ils travaillent, elles et ils. On va bien sûr s'intéresser à la sortie de cet album comme cas d'école, si je puis dire, mais retour vers l'enfance. Et quand on pense que vous avez signé la musique d'un ballet avec une mère danseuse, un père musicien, on se dit que vous avez opéré une sorte de synthèse musicale, mais au-delà de la blague, ça veut surtout dire que vous avez grandi dans une famille où le rapport à l'art allait de soi.
Oui, exactement. C'est vrai que ma mère était danseuse classique et ensuite elle a intégré une compagnie de danse contemporaine. Mon père est compositeur et producteur de musique et je suis totalement né dans cet environnement. Même si finalement mon père travaillait plus dans des studios d'enregistrement que j'ai peu fréquenté. Et par contre, ma mère était entourée de danseurs et de chorégraphes et j'ai finalement été beaucoup plus baigné dans l'univers de la danse que de la musique quand j'étais jeune enfant.
Est-ce que vous avez continué à être spectateur de ballet classiques ou contemporains dans votre vie d'adulte?
Oui, absolument. Dès mon enfance, je suis allé voir des ballets avec ma mère. Elle avait fait partie de la première compagnie française de danse contemporaine mise en place par le ministère de la Culture, qui s'appelait le Ballet Théâtre Contemporain, en 1968, à Amiens en premier, et ensuite à Angers. Elle était danseuse principale là-bas, avec un danseur aussi comme Dominique Merci, qui est ensuite qui a joint Pina Bausch ensuite. Donc c'est vrai que je me souviens être allé très régulièrement au théâtre de la ville quand j'étais enfant, voir de la danse, et j'ai continué à le faire depuis. Donc la danse contemporaine et classique aussi font partie intégrante de ma vie et l'ont toujours fait finalement.
Alors pour revenir encore sur l'histoire, 86, classe de 4e au collège Carnot à Paris, vous rencontrez Guy-Emmanuel de Homem-Christo avec qui vous avez passé d'abord beaucoup de temps au cinéma. Mais pour voir toutes sortes de films, c'est Fritz Lang, mais c'est aussi Robocop, c'est Warhol. Pas d'hierarchie, ça c'est peut-être une donnée importante entre ce qui serait le bon et le mauvais goût. Puis il y a aussi les magasins de disques, les boîtes de nuit, où vous faites recale souvent, mais puis vient le temps des premières raves, des trans musicales, du toit de Beaubourg. Et cette ambiance-là, cette musique-là, cette scène-là, elle vous dites qu'elle était plus agréable pour vous, elle vous concernait plus que celle des concerts rock à l'époque.
Il y avait une certaine forme d'ouverture en fait à un moment dans la scène électronique, des gens qui étaient prêts à écouter de la musique et à découvrir des morceaux qu'ils ne connaissaient pas sans attendre le hit du moment, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que cette énergie, cet état d'esprit et cette ouverture, et finalement, on en revient à la danse aussi, hein, parce que c'était vraiment une partie intégrante, importante de cet univers. Ça m'a beaucoup touché et intéressé, en fait.
Alors, je résume là très rapidement. 17 ans, premier groupe, Darlin, avec Guyman, mais aussi avec Laurent Brankowitz, qui sera le guitariste putain de Phoenix.
Oui.
À ce moment-là, vous êtes quand même, Thomas Bangalter, concentré sur vos études sociaux, linguistiques, technologie.
Sociologie et linguistique à Nanterre. Et puis ensuite, je fais une licence d'ethnomusicologie que j'arrête à un moment parce que j'ai commencé à faire un petit label de musique électronique et j'ai plus le temps de faire les deux.
Mais effectivement, il y a ce en 93 avec Guy Manuel de Homem Christo. Vous reprenez ce qualificatif donc de punk idiot qui avait été décerné par le Melody Maker avec ce et devenez les Daft Punk. La dimension punk, elle est là parce que ça, il faut bien dire qu'au départ, c'est une table à tréteaux dans votre chambre avec du matos qui est récupéré. Vous achetez un Juno 106, un petit sampler Akai S01. Et puis vous avez, votre père vous a filé un Moog, un mini Moog, ce qui est pas mal. Et puis un séquenceur, il y a une petite console de mixage, un petit compresseur. Tout ça branché, je crois, sur un Ghetto Blaster que vous aviez depuis un certain temps.
Oui.
On va en reparler, mais vous plongez, comme vous l'avez fait pour composer Mythologie, dans des partitions, dans des traités d'orchestration. C'est le même plaisir, en fait, c'est la même recherche que celle du jeune Thomas Bangalter. Quand il branche tout ce matos.
Oui, c'est la découverte d'un univers qu'on ne connaît pas et où on se place vraiment. Moi, je me place en amateur et de curieux. Je suis motivé par cette curiosité et une idée d'expérimentation en fait, mais une expérimentation qui peut être des fois sur le fond, des fois sur la forme. Pour la peine, là, c'était un peu... On écoutait des disques qui venaient de Chicago, de Détroit, qui étaient faits, enregistrés sur des cassettes, avec un son très brut. Et ça nous motivait de faire la même chose, et d'essayer de faire la même chose dans ma chambre d'enfant. Hein, parce que ce Ghetto Blaster, je l'avais eu, je sais pas, pour mes 11 ans ou mes 12 ans. Et les très tôt, j'enlève mon lit et en fait... On enregistre notre premier album un peu en bricolage, comme ça, en bricolant dans cette chambre. Et ensuite, quand vient le succès de ce premier album, on décide d'enregistrer le deuxième dans cette chambre aussi, en fait, et de pas bouger pour aller dans un plus gros studio d'enregistrement. Donc, ce qui était intéressant et ce qui m'intéresse en fait dans cette idéologie punk, en fait. C'est l'idée de toujours expérimenter et de justement pas devenir la caricature de soi-même comme c'est souvent le cas des fois et ça l'a été en tout cas avec la musique punk peut-être à un moment donc c'est plus un esprit qu'un son en fait je pense.
Ne pas être la caricature de soi-même c'est aussi être changeant. Souvent. En 94, Daft Punk sort le premier, un maxi trois titres de New Wave. En 95, c'est le maxi Daft Punk Running and Scratching. Alors, j'ai demandé à Sam Bakias, qui réalise cette émission, de réaliser un mix pour vous. Alors, il n'avait pas le matériel nécessaire, hein, mais j'ai demandé s'il pouvait faire quelque chose avec ces deux morceaux-là. J'assume la responsabilité. Si ça vous plaît, le crédit, ce sera pour Sam. Un peu impossible, c'est pas du tout le même tempo pour ces deux morceaux, Da Funk et Rolling and Scratching, mais si j'ai demandé à Samba Cast de faire cet enchaînement, en tout cas, c'est parce qu'il me semble qu'il y a là, dès le départ, ce qui sera la marque de Daft Punk et aussi la vôtre, on le voit, c'est l'électro et le rock. C'est-à-dire qu'on voit d'ailleurs quand Homework assume la techno avec un côté rock, puis le disque suivant, Discovery, assume un côté rock en disant. Quand même, les gens de la techno, écoutez-nous, ça fait du bien. Il y a toujours ce désir de vous renouveler, et c'est ce qu'on retrouve dans Mythologie.
Oui, je pense que c'est un... Moi, j'aime toutes les musiques, et c'est peut-être aussi ce qui nous avait un peu déçus dans cette scène du rock à un moment qui était un petit peu fermée, avec un petit peu... des œillères, comme ça, et à la fois... moi, j'avais l'impression d'être intéressé par plein de choses différentes et d'essayer de jamais rentrer dans une case de manière volontaire ou essayer d'en sortir en permanence. Donc, c'était peut-être cette histoire de devenir la caricature de soi-même aussi. Mais
parce que si on prend ce maxi, on écoute une face puis l'autre face, on peut se dire que ce sont pas les mêmes musiciens.
Oui.
Ça, c'est bien.
J'ai l'impression que justement c'est ce contraste en fait c'est le contraste qui m'intéresse et dans ma démarche musicale chaque morceau finalement des fois il y a des contrastes dans un morceau ou dans un disque mais vient finalement c'est une facette supplémentaire qui peut venir s'opposer ou rentrer en opposition ou en alignement avec un morceau précédent. Là c'est des morceaux qui ont bientôt 30 ans mais ce qui m'intéresse c'est de les mettre les correspondances qu'il peut avoir par exemple avec le disque de Mythologie qui sort aujourd'hui. Il y a un vrai manifeste, j'ai l'impression, pour moi, dans la juxtaposition de ces morceaux successifs, en fait, plus que dans un morceau pris lui-même séparément.
C'est pour ça que je voulais mélanger ces deux-là, et on va écouter au cours de cet entretien deux extraits de ce disque Mythologie. Mais quelques mots encore sur Daft Punk, Thomas Bangalter, avec tout d'abord un extrait d'un entretien que Pedro Winter donnait en 2020 à mon camarade Mathieu Conquet sur France Inter. Il parle, Pedro Winter, de ses débuts professionnels.
Ah bah mon premier métier, j'ai sauté dans le grand bain très tôt, parce que j'avais 20 ans. 1996, donc 21 ans même, je triche, avec Thomas Higgeman de Daft Punk. Je suis parti, je me suis lancé dans une aventure dont j'avais aucune idée qu'elle allait aboutir à tant d'histoires et à tant d'aventures. Donc je me suis improvisé, disons, bras droit d'un groupe extraordinaire et qui allait rendre ma vie extraordinaire. Et j'ai appris le métier avec eux. Moi, j'étais en fac de droit. Au tout début, j'avais même à peine eu le temps d'acheter tous mes bouquins de droit. J'étais à Paris 1 et je crois que j'ai été 3 mois à la fac. Et je suis parti avec Thomas Higgeman. Alors au début, de chez eux, je répondais à des fax. C'était encore des fax. On avait à peine des téléphones portables et nos premiers emails. Et donc j'ai appris au contact des gens qui ont épaulé les Daft Punk au tout début de leur carrière. Et donc ça a été finalement la meilleure école pour apprendre ce métier qui est un métier mais qui n'en est pas un non plus, qui est aussi une aventure, hein, une histoire de passionné. La musique, l'indépendance, tout ça c'est assez philosophique et assez, c'est des positionnements limite politiques, disons... puisque on est maître de son aventure, maître de son bateau, de son navire. Et moi, c'est ce que j'ai aimé avec Daft Punk et c'est ce que j'adore faire avec Ed Banger et avec les artistes du label depuis maintenant 17-18 ans.
Alors, plusieurs choses intéressantes, me semble-t-il, dans ces paroles de Pedro Winter, Thomas Mangalter, à commencer par cette dimension politique. C'est une philosophie de vie, la façon dont vous faites, et je parle au présent, de la musique.
C'est avant tout cultiver vraiment la liberté. Moi, j'ai la chance de... où j'ai pris cette opportunité de vraiment essayer en permanence de rester libre.
Pas une chance, vous l'avez construit.
Oui, mais j'ai peut-être la chance. Je sais pas. Je suis né dans une famille où j'ai été présenté à cette liberté. C'est vrai que j'ai pas dû me battre auprès de mes parents pour devenir artiste. D'ailleurs, je pense que même la question de l'art dans ma vie ne s'est pas posée vraiment peut-être jeune, et elle s'est posée plus tard. Et le sens de cette démarche, mais c'est vrai qu'une idée de liberté, de radicalité, un peu des fois d'être à bord d'un cheval de Troie, où on intègre le système et on le change de l'intérieur. Des fois, on est complètement en marge et on est à côté. Donc, et c'est pas de rentrer non plus dans un systématisme même à ce niveau-là. C'est-à-dire que même d'un point de vue idéologique et politique et éthique et philosophique, il y a une vraie motivation, mais moi j'ai pas d'a priori, j'ai pas vraiment des convictions non plus, ceci étant dit, très fixes, qui m'empêcheraient de faire le contraire de ce que j'avais décidé de faire, si j'estime que c'est la manière de pouvoir rester libre, en fait.
Oui, mais ce que vous dites là aussi, Thomas Mangalter, c'est ce qui est implicite, c'est que si la musique est au cœur de votre œuvre, avec Daft Punk, et aujourd'hui en solo, ça participe d'une approche holistique de la création artistique, esthétique.
Oui, non, mais la musique n'est pas le cœur de l'œuvre, en fait. La musique, c'est la bande originale de la démarche, en fait.
C'est la partie très visible, on va dire.
C'est la partie visible, mais je suis d'accord avec vous, et pour moi, la musique est finalement pas du tout au centre de ma vie. Ce qui est intéressant avec la musique, c'est que elle peut Jean Kelevich écrit que la musique, c'est exprimer l'inexprimable. Et moi, j'ai l'impression j'étais bon en mathématiques quand j'étais à l'école, pas finalement très bon dans les matières littéraires, et j'ai l'impression que j'ai pu, grâce à la musique et à cette approche un petit peu holistique, pouvoir exprimer des choses, une certaine démarche, et le faire de manière presque instinctive et spontanée, se cacher ou créer des personnages, tout faisait partie d'une démarche où qui était à la fois esthétique, éthique, l'idée d'essayer de faire des choses de manière élégante, en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est comme si l'élégance était pas au centre des préoccupations des fois artistiques, mais l'idée de l'élégance, même dans une approche très punk, hein, moi je pense que de manière complètement subliminale, elle continue à me motiver, avec aussi cette envie de curiosité et d'apprentissage, en fait, et de continuer à apprendre en permanence. Moi, j'avais aussi peur des effets de l'expérience sur le processus créatif, de faire ça pendant 5 ans, 10 ans, 30 ans, et de commencer à être trop expérimenté. Voilà.
Alors, il faut encore une fois renverser la table, faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est le cas avec cette musique pour le ballet d'Angelin Préjocage, Mythologie. On va en écouter un premier extrait dans un instant. Mais alors, le cinéma, vous avez fait des musiques de films de musique de films. Il y a différents processus, mais on compose souvent après les tournages. Vous avez peut-être vécu des expériences différentes. Un ballet, il faut bien que la musique soit là au départ pour que le chorégraphe puisse travailler.
Oui.
Quelle a été la méthode de travail avec Angelin Préjocage? Vous avez envoyé séquence par séquence, des extraits, des propositions?
pas, enfin, ça s'est fait en deux ou trois étapes, en fait. Angelin m'a invité à travailler, ouais, il m'a proposé de travailler sur un ballet. Il n'y avait pas de thème vraiment défini. À ce moment-là, je lui ai fait, quelques mois plus tard, une proposition avec une quinzaine d'esquisses, comme ça, peut-être des esquisses entre 30 secondes et une minute. Et puis à ce moment-là, il est revenu vers moi avec cette idée de mythologie. C'est un peu ce que les esquisses lui avaient soufflé à l'oreille. Et ensuite, il m'a donné un livret avec différents mythes à illustrer. Et puis moi, je suis parti finalement à ce moment-là écrire de mon côté complètement pendant de nombreux mois. Et je suis revenu ensuite avec toute la musique et les différents mythes que j'avais mis en musique. Et là, il a commencé le travail. Enfin, il avait peut-être commencé dans sa tête un petit peu avec les esquisses, mais c'est vrai que la musique a été composée avant la chorégraphie.
Alors, premier exemple, ça va être Thalestris, reine des Amazones, au temps des conquêtes d'Alexandre le Grand. On va entendre la musique, mais j'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots avant, Thomas Bangalter, sur, voilà, à partir de cette figure-là, comment ça commence pour vous l'écriture de cette mythologie-là? Est-ce que vous vous en souvenez? Est-ce que ça commence à dater un peu? Vous voulez l'écouter d'abord?
On peut l'écouter.
On écoute Thalestris. Thalestris, la reine des Amazones, musique signée Thomas Bangalter sur cet album mythologique qui vient de sortir aujourd'hui chez Erato. Alors, on n'a pas précisé avant, mais oui, c'est bien un orchestre.
Oui, ce n'est qu'un orchestre, sous la direction de Romain Dumas. Voilà.
Ah, il faut le dire. Vous vous souvenez comment est née cette partition-là, Bangalter?
À cette époque, j'avais commencé à faire différentes esquisses, et c'est vrai que Thalestris, c'est la reine des Amazones, donc c'est la reine des guerrières, donc c'est la guerrière des guerrières.
Ça envoie.
Voilà, donc il y avait son arrivée, en fait, et donc voilà, il y a cette première partie qui est assez martiale, comme ça, très forte. Et puis après, il y a l'idée de la danse, donc je pense que au départ, on n'est pas vraiment dans la danse musicalement, on est dans quelque chose d'assez appuyé. Et donc la danse, moi j'avais envie pour ces mythologies de travailler sur un... c'est des mythes qui viennent de très loin, qui viennent du passé, qui nous survivront, qui ont dans le futur, et travailler sur cette idée de folklore imaginé, en fait. Donc une grande partie de ces mélodies, en fait, j'aimais bien l'idée d'imaginer que voilà, je les déterrais un petit peu. Elles étaient là sans doute avant, et elles pouvaient être fredonnées de génération en génération. Donc et en même temps, il fallait que ce soit des mélodies dansantes. Mais bon, c'est ce qu'on a dans le folklore aussi, des je sais pas, des tarentelles ou des choses qui font avancer. Il y avait un travail nouveau pour moi aussi. C'était l'idée de sortir de quelque chose qui avait été très binaire avec Daft Punk, où on était vraiment dans 1, 2, 3, 4. Et là, il y avait, j'ai vraiment essayé de travailler, voilà, des rythmes à 5 temps, à 7 temps, à 9 temps, à 12 temps, mais en essayant de leur donner à chaque fois une certaine... c'est pas évident, en fait, quand on travaille peut-être à 5 ans ou 7 ans, mais fallait que la mélodie elle-même, ou que cette idée du folklore, elle vienne de façon assez assumée, assez évidente, comme si c'était, ah bah oui, bah c'est la fameuse danse à 5 ans qu'on danse depuis des générations et des générations. Donc, c'était, voilà, un peu comme des combinaisons à trouver, et à explorer un peu, voilà.
Parce que si vous avez signé des bandes originales de films, le travail pour un ballet est complètement différent, parce que on en parlait avec Jean-Benoît Dinkel, qui, quand il travaille pas avec R, fait aussi du travail en solo, et on parlait des musiques de films qu'il avait pu écrire, en disant que la musique dans un film, c'est un autre niveau de vérité, ce que je trouvais une très belle phrase, mais là, la musique, c'est presque la vérité du ballet, c'est-à-dire que sans la musique, le ballet n'est pas.
La musique de film, c'est à l'image, c'est, je trouve que c'est un exercice très compliqué, qui nécessite aussi beaucoup de détachement, parce qu'on essaye beaucoup de choses. Quand ça marche pas, faut tout mettre à la poubelle et recommencer. Enfin, c'est très intéressant, mais là, la chance que j'ai eue, c'était vraiment cette carte blanche que m'a donnée Angelin, quand même, parce que je me souviens, à un moment, je lui ai demandé, même au niveau du temps, du chronométrage, est-ce qu'il avait vraiment des indications précises, et puis il m'a dit non, fais comme tu veux, on verra un petit peu après. Et c'est vrai que moi, je suis arrivé à la fin du processus d'écriture, avant des corrections, avec à peu près 1h45 de musique. On a enlevé une quinzaine de minutes ou une vingtaine de minutes, et ensuite il y a eu une certaine forme de montage où on a réorganisé un peu l'ordre, et puis fait des coupes, et puis aussi fait des répétitions. Donc c'est ce qui se passe, enfin c'était ce qui s'était passé pour une grande partie, finalement, des collaborations classiques entre les compositeurs et les chorégraphes, où on se rend compte à un moment donné que il faut que des fois des mesures
soient rajoutées. Il faut rajouter des mesures pour voilà. Que le danseur puisse faire sa diagonale.
Oui, non, ou des fois pour... Exactement, c'est vrai, des tempos, schématise. Des fois, changer les tempos, il y a... Et donc il y a eu ensuite un vrai travail de collaboration à ce moment-là, finalement, quand la musique a été écrite, où on l'a adaptée. Mais moi, j'ai eu vraiment la chance et la liberté de pouvoir essayer des choses et les expérimenter seul, en fait, sans contrainte.
Alors, une autre couleur de ces mythologies, on va écouter Eden. En deux extraits seulement, mais un disque vaste dans lequel on voyage beaucoup, Thomas Bangalter. Mais à propos de voyage, comment est-ce que vous avez vécu la première représentation de Mythologie ?
C'était très émouvant et oui, c'était un moment qui concluait finalement à la fois un processus long, difficile et solitaire finalement que j'avais apprécié, mais qui était à la fois stimulant intellectuellement et à la fois j'étais quand même dans un labyrinthe un peu comme Ariane pour combattre le Minotaure d'arriver à terminer ce projet et progressivement quand la partition a été transmise aux musiciens et quand les de voir ces 55 musiciens les écouter en tout cas dans la fosse et ces 20 danseurs sur scène et ces techniciens qui s'affairaient en coulisses voilà ça faisait une centaine de personnes qui s'activaient à interpréter ce spectacle c'était un moment très touchant. J'étais très touché.
Alors, ça avait rien d'évident, finalement, que de sortir cette musique en disque. Est-ce que ça veut dire qu'elle a acquis une forme d'autonomie aujourd'hui ?
J'étais pas sûr de vouloir la sortir en disque parce que j'étais pas sûr d'être satisfait du résultat non plus. Donc, j'avais le désir de faire une œuvre de spectacle vivant avec Angela. On s'est dit voilà c'est un vrai terrain et un espace d'expérimentation mais à la fois j'étais pas certain je m'engageais aussi d'habitude j'ai pas vraiment eu l'habitude de m'engager avant de finalement faire quelque chose et d'en être content et de le partager là je me suis engagé avant de l'avoir terminé donc c'était
assez, vous êtes fait assez... violence, hein, parce que vous aimez bien garder.
Ah oui, non, c'était.
Il faut que ça vieillisse en fût d'habitude, hein.
Et totalement. C'était très violent. C'était très violent, mais à la fois ça m'a mis dans un état d'esprit différent où il y avait, je dirais pas, c'est de l'écriture automatique, mais
il y a une date de première, quoi.
Il y a une date de première, et en fait, finalement, le fait qu'elle soit dans longtemps, ça aide pas vraiment non plus, parce que plutôt que d'avoir un mois à Gamberger, on se retrouve avec deux ans et demi de questionnement comme ça. Mais bon, non, ceci étant dit, il y avait une heure et demie de musique à faire et j'avais plus le temps de me questionner, en fait. Et ça, c'était très, très enrichissant pour moi.
Et voilà. La sortie en disque,
elle s'est effectivement imposée. J'ai l'impression quand, avec Angelin, on était, je pense qu'on était heureux et satisfait du spectacle et moi, j'étais content de cette expérience et j'étais prêt à pouvoir la partager en fait et puis pour revenir à cette idée d'exploration différente j'appréciais finalement la démarche et l'idée de rajouter ce disque à comme une facette différente de ce que j'avais pu exprimer musicalement auparavant.
Bah c'est ça, réussi. Le disque Mythologie vient de sortir aujourd'hui chez Erato. Alors je rappelle qu'il y a des dates à venir du ballet. Ce sera du 8 au 11 juin à la Criée au Théâtre National de Marseille. Et puis aussi, signalons, on en reparlera peut-être une autre fois, la réédition de l'album Random Access Memories de Daft Punk, ce sera chez Columbia le 12 mai, j'imagine qu'il y aura des petites surprises dedans. Merci beaucoup Thomas Bangalter d'avoir été notre invité.
France Culture, Affaires culturelles, Arnaud Laporte.
Bonsoir Lucille Comeau.
Et bonsoir Arnaud.
Alors vous avez visité la nouvelle exposition de la Fondation Vuitton pour l'art contemporain à Paris qui est consacrée à Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat.
Oui, je n'étais pas la seule, hein. Clairement, il y avait foule pour cette grande exposition. Grosse exposition serait sans doute une plus juste expression. Sise à la Fondation Louis Vuitton, hein, ce grand bâtiment luxueux dessiné par Franck Gehry dans le bois de Boulogne. Dans de très vastes espaces, sur quatre niveaux, sont exposées 80 parmi les quelques 160 toiles réalisées par les deux artistes à quatre mains en deux années seulement, 1984 et 1985. Warhol est alors une gloire quelque peu vieillissante de l'avant-garde. déjà fort institutionnalisé et moins créatif, tandis que Basquiat, lui, de plus de 30 ans, son cadet, est en pleine ascension. Ils créent ensemble, à un rythme continu et effréné, de grands formats, parfois même de très grands formats, où ils peignent, mêlent, collent, selon des systèmes de séries et de variations, leurs obsessions propres, chez Warhol, les logos, les slogans, les artefacts de la culture populaire, et puis chez Basquiat, les graffitis, les repentirs, les masques noirs. C'est très impressionnant d'abord de regarder ces grandes toiles saturées de signes de toutes sortes, des signes qui ont par ailleurs depuis saturé nos imaginaires collectifs, tant l'art de Warhol et de Basquiat, même si on ne les connaît pas théoriquement, ont infusé notre culture visuelle. Le problème, c'est que cette saturation, qui est un geste artistique majeur de cette collaboration entre les deux artistes, est démultipliée et intensifiée elle-même par l'énormité de cette expo, un peu monstrueuse j'ai trouvé, qui a choisi de tout montrer donc de ses 80 œuvres et qui en plus leur a adjoint d'autres œuvres, des photographies en série, notamment celles qui montrent un faux combat de boxe entre Basquiat et Warhol, et d'autres censées contextualiser cette collaboration dans le New York artistique d'alors. J'ai été assez vite étourdie par la multiplicité des choses à voir, d'autant que le parcours est bien peu dynamique, à peine soutenu par des cartels que j'ai trouvé trop rares et fort peu éclairants, qui effleurent à peine les enjeux artistiques et politiques de cette œuvre qui est quand même considérable. Alors on est beaucoup, mais d'une certaine manière on est un peu tout seul dans ces grands espaces blancs, forcé de consommer du Basquiat Warhol, évidemment séduisant et coloré, mais sans en penser grand-chose.
Parce que consommer, et la consommation, précisément, c'est le statut de l'objet de l'œuvre, c'est au cœur du travail de ces deux artistes, Lucille.
Oui, il y a quelque chose de profondément dérangeant de ce point de vue, je trouve, dans cet événement qui aplatit, faute d'ancrage historique et théorique, la qualité subversive et problématique de cette œuvre, fruit de deux artistes qui ont commencé dans l'underground et sont devenus des stars. Une chose en particulier m'a frappée, c'est l'affiche de l'exposition. Elle se présente comme la variation d'une affiche de 1985. On voit sur cette affiche originale les deux artistes en boxeur et leur nom en grandes lettres rouges, donc Warhol, Basquiat, séparés par une étoile noire. L'étoile noire, soit dit en passant, c'est un motif très courant dans l'œuvre de Basquiat. L'affiche de Vuitton reprend ce principe en utilisant une autre photo de boxeur de la même série, mais à l'étoile, elle substitue la croix, vous savez, ce petit signe mathématique de la multiplication. Je trouve ça déjà très révélateur que ce soit précisément la multiplication qui soit valorisée. On doit en avoir pour son argent à Vuitton, un des musées les plus chers de France, ou par ailleurs, si on veut apprendre apparemment un peu sur les œuvres, il faut en plus s'offrir le catalogue. Par ailleurs, ce petit signe-là, c'est celui traditionnellement utilisé pour coder les collaborations entre deux marques de mode, par exemple Uniqlo fois Inès de la Fréchange, vous voyez. Je rappelle que le groupe Vuitton, qui appartient à Bernard Arnault, a été épinglé il y a peu pour avoir utilisé dans une publicité pour un sac à main l'œuvre de l'artiste Joan Mitchell sans son autorisation. Et voilà que sur l'affiche de la fondation du même nom, on réduit dans le fond une collaboration artistique à ce que dans la mode on appelle une collab, un mot que j'ai entendu d'ailleurs apparemment sans gêne aucune dans la bouche de certains de mes collègues journalistes culturels. Je trouve ça quand même assez cynique, surtout quand les artistes en question ont fait de la société de consommation et de la mode une manière à penser dans leur art.
Donc la collab Basquiat Warhol, c'est à voir à la Fondation Louis Vuitton à Paris jusqu'au 28 août prochain. Merci Lucille Como. Affaire en cours avec vous, Marie Sorbier. Bonsoir.
Bonsoir Arnaud.
Ce soir, vous nous parlez d'une très grande rétrospective consacrée à une très grande artiste, Anna Eva Bergman.
Oui, cette peintre est encore peu connue du grand public, pourtant c'est une figure majeure de l'art du XXe siècle, si l'on a souvent associé à son mari Hans Hartung. Anna Eva Bergman développe pourtant un travail singulier que l'on peut enfin découvrir au Musée d'Art Moderne à Paris. Je suis allée demander à Hélène Leroy de nous la présenter. Hélène Leroy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable des collections permanentes au Musée d'Art Moderne à Paris et commissaire d'exposition. La rétrospective proposée par le Musée d'Art Moderne est la plus importante jamais consacrée à Anna Eva Bergman. Elle permet un voyage non seulement dans ses œuvres, mais aussi dans tout le XXe siècle. Si l'artiste commence par une phase figurative, viennent ensuite ces célèbres toiles qui ont pour base une feuille de métal. Alors en quoi cette technique est innovante et qu'apporte-t-elle à l'œuvre de Bergman ?
Alors, ce qui est original avec Bergman, c'est que d'abord, elle ne va pas uniquement utiliser des feuilles d'or et d'argent, même assez peu, en fin de compte, puisque l'argent s'oxyde. Donc, très souvent, quand vous regardez ses œuvres et que vous voyez les surfaces argentées, c'est des feuilles d'aluminium. mais elle utilisait donc des feuilles métalliques de différents métaux, également du cuivre, du zinc, du laiton. Donc on voit qu'elle a finalement une palette assez large. Et puis elle va pas, quand elle va se servir de ces feuilles de métal, elle va pas utiliser les techniques tout à fait traditionnelles de dorure qu'elle connaît parfaitement et qu'elle a pu également utiliser. Donc c'est surtout aussi la manière dont elle va arracher parfois ses feuilles après les avoir posées. Elle n'a pas un respect particulièrement important pour ce matériau. C'est pour ça qu'elle en parle comme d'un pinceau, parce qu'elle va parfois recouvrir aussi ses feuilles de métal par des vernis colorés. Elle va les arracher pour leur donner donc de la texture. Et puis, elle maltraite en même temps qu'elle honore parfaitement ce matériau. Et ça, c'est nouveau, parce que généralement, on pourrait imaginer que les feuilles de métal sont utilisées pour faire très joli, qu'on pose comme ça à la fin. Elle se sert, elle intègre complètement cette technique comme une sorte de peinture.
Alors, vous avez évoqué les retables, bien sûr qu'on y pense quand on voit ces feuilles dorées. Est-ce qu'il y avait quand même chez Bergman un lien avec le spirituel ou avec la transcendance ?
Tout à fait, il est très très fort. Et chez Bergman, le sacré est une composante vraiment essentielle de son art. Alors, il n'y a pas de référence précise à des religions, même si parfois, dans certains titres, vous pouvez avoir des références. En fin de compte, Bergman, elle va convoquer une sorte de syncrétisme religieux qui est aussi celui de son époque. Dès les années 30, elle s'intéresse à la théosophie et c'est un domaine qui captive d'ailleurs beaucoup d'artistes modernes, hein, comme Kandinsky, par exemple. Donc c'est cette idée que les spiritualités, les religions, en fait, sont interconnectées et qu'elles parlent un peu toutes de la même chose. Et chez Bergman, en fait, finalement, l'idée du divin, cette spiritualité qu'elle a, c'est qu'elle partage aussi avec des spiritualités plus orientales. C'est aussi, en fait, c'est une manière de nous amener à prendre conscience qu'on fait partie d'un tout. Donc elle a plutôt une vision assez cosmique.
Alors justement, vous employez le mot cosmique. Dans son travail abstrait, on pressent bien sûr le paysage, on le devine. Mais même au-delà du paysage, il y a toute une cosmogonie qui se présente à nous. Alors, est-ce qu'elle a utilisé les connaissances d'astrophysique de son époque ? D'où vient son goût comme ça pour les planètes et pour le ciel ?
Alors, c'est vrai que les planètes, les astres font partie intégrante de son répertoire de formes, de ses thèmes, de ses motifs. Et vous l'avez dit, c'est finalement parfois des paysages lunaires que Bergman nous invite à contempler. Elle était passionnée d'astrophysique dans le sens où elle s'intéressait à ce qui se passait à son époque.
Oui, dans l'expo, on apprend par exemple qu'elle était abonnée au magazine Planète.
Voilà, alors le magazine Planète, c'était pas forcément un magazine d'astrophysique, c'était un magazine sur le monde en général, mais ça montre en tout cas son ouverture d'esprit, la variété de ses centres d'intérêt. Et c'est vrai qu'on sait aussi que dans ses archives, il y a les magazines qui parlent des premiers pas de l'homme sur la Lune. En fait, elle est totalement contemporaine de la conquête de l'espace. Donc c'est sûr que ça fait partie de son vocabulaire. Et puis vous avez parlé de cosmogonie, alors là c'est un peu plus différent, c'est pas seulement représenter les astres, c'est représenter les éléments. Donc je parle de cosmogonie dans l'exposition à partir du moment où elle fait entrer le feu, elle représente des océans qui est une manière de figurer l'eau, elle se confronte à la représentation de l'univers et des quatre éléments. Et ça c'est sûr qu'avec la feuille de métal, avec ses reflets dorés, elle va donner une dimension presque cosmique, spirituelle à ces représentations qui sont plutôt d'ordre élémentaire.
Oui, élémentaire parce que organique aussi. Il y a toute une série d'œuvres où on retrouve, je ne sais pas, la pierre, enfin quelque chose de très minéral.
Oui, c'est l'art de Bergman, il est très ancré dans le réel. C'est vrai que c'est paradoxal quand on regarde ces grandes formes épurées, on voit l'abstraction, on voit ce qu'elle appelait l'art d'abstraire, donc la façon dont elle a de résumer symboliquement le paysage à des signes, à des formes, à des couleurs. Et dans sa manière de travailler, on a l'impression comme ça qu'elle pourrait être totalement abstraite. En fin de compte, il y a toujours des éléments qui partent du concret, du réel. Et c'est effectivement l'arbre, la terre, l'astre, mais parfois aussi donc, l'eau, la pluie, le vent, certains vents. Elle peint le Mistral, par exemple, Bergman.
C'était important pour vous, dans cette exposition, qu'il ne soit pas ou très peu mention de Hans Hartung ?
Oui, alors il est présent parce qu'il fait partie intégrante de sa biographie. On a aussi montré une œuvre et c'est révélé par un cartel qui faisait partie de la collection de Hartung, puisqu'on sait que quand ils se rencontrent très jeunes, ils ont ensemble la passion de l'art et donc ils travaillent ensemble leur théorie de l'art. On sait qu'ils travaillent sur le nombre d'or tous les deux. On peut imaginer leur discussion passionnée sur l'art. Et puis, donc, le fait qu'ils s'échangeaient des peintures, donc on montre une œuvre que Hartung avait choisie pour lui. Et puis, il y a des photographies où on les voit ensemble. Je pense que ce sont deux artistes qui avaient intérêt à échanger réciproquement sur leur art et à s'encourager mutuellement.
L'exposition Anna Eva Bergman, Voyage vers l'intérieur, se visite au Musée d'art moderne à Paris jusqu'au 16 juillet. Merci beaucoup Hélène Leroy.
Et merci à vous Marie Sambier. Chaque vendredi, cette saison, nous prenons des nouvelles d'artistes, de chercheurs, chercheuses en résidence à la Villa Albertine aux États-Unis. C'est un programme qui est piloté par Gaëtan Bruel et Emma Butin qui propose donc des résidences sur mesure pour toute discipline. On en parle ce soir avec Tatiana Villela dos Santos qui est en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Je dis bonjour car vous êtes à San Francisco, donc c'est plutôt le matin. Dire que vous êtes artiste numérique, designer, chercheuse en sciences de la formation. Vous intéressez notamment aux frontières poreuses entre jeux vidéo et art immersif. Des créations qui sont souvent des jeux à contrôleurs alternatifs, des œuvres vidéo ludiques, contrôlées par des interfaces tangibles, faites main, construites spécifiquement pour ces expériences. On va un peu mieux comprendre quand vous allez nous expliquer votre résidence, mais réenchanter le réel par le numérique, ça reste votre objectif, Tatiana Villela dos Santos. C'est l'hypothèse de votre recherche dans cette résidence, si je l'ai bien compris, vous allez nous expliquer. C'est de tester la possibilité par le numérique, par son surgissement dans le réel, de susciter une attitude ludique, une curiosité, une forme d'émerveillement. Vous êtes plutôt en fin de résidence cette dernière semaine à San Francisco. Quels sont les lieux où vous êtes allé et quelles sont les personnes que vous avez, vous, souhaité rencontrer ?
Alors, j'ai eu la chance incroyable, effectivement, d'aller d'abord à Los Angeles, puis à Las Vegas, puis en Arizona, puis à Santa Fe au Nouveau-Mexique, et je suis revenue par Denver dans le Colorado, Salt Lake City dans l'Utah, et je suis actuellement à San Francisco dans ma dernière semaine de résidence, effectivement. Et les gens que j'ai souhaité rencontrer durant ce séjour de presque deux mois, ça a été d'abord les acteurs de l'art immersif et du jeu sous ses formes tangibles ici dans le sud-ouest américain, parce qu'il y a ici sur ce territoire une spécificité, une capacité à mettre en lien les aspects de la culture qui sont plutôt rattachés d'ordinaire au divertissement et l'art, pour le meilleur et pour le pire. Et donc il y avait un intérêt pour moi à rencontrer tous ces acteurs.
Et puis cette terre-là aussi, notamment cette Californie, c'est aussi le lieu de l'art psychédélique qui vous intéresse tout particulièrement, je crois.
Tout à fait. Donc ce qui m'a plus particulièrement intéressée ici, c'est de mettre en relation l'art psychédélique et l'art ludique, qui sont deux arts assez récents finalement. L'art ludique, son intérêt principal va être d'être capable de, donc oui, effectivement, susciter une attitude ludique chez le spectateur, chez l'interacteur, de le faire peut-être même retomber en enfance et lui faire retrouver une curiosité perdue. Et il y a dans l'art psychédélique des points communs, plutôt par les sens, par l'émerveillement des sens, la stimulation des sens, et notamment le sens visuel, mais il y a aussi cette capacité dans l'art psychédélique à ressusciter, restimuler un émerveillement, retomber en enfance, etc. Et je voulais voir un petit peu ce qu'on pouvait mettre en relation entre ces deux formes d'art, notamment pour proposer, in fine, une installation, une pièce qui lierait ces deux disciplines.
Alors on va, avant de parler de ce débouché sans doute éventuel de Tatiana Villela dos Santos, il y a les idées avec lesquelles on arrive dans une résidence et puis il y a la réalité de ce qu'on vit. Est-ce qu'il y a eu beaucoup d'écart entre ce que vous imaginiez et ce que vous avez vécu ?
Il y a des choses auxquelles je m'attendais C'est une question très intéressante. J'ai jamais eu l'occasion d'y répondre encore.
Oui, parce que vous êtes encore dans la résidence, c'est pour ça.
Oui. Je suis sur la fin, mais effectivement, il me reste le territoire de la Californie du Nord à explorer encore un peu. Mais pour répondre au moins partiellement à la question, il y a des choses auxquelles on pouvait s'attendre. Je parlais de liens entre l'art et le divertissement, pour le meilleur et pour le pire, et c'est intéressant parce qu'ici, c'est vrai que la frontière est beaucoup plus fine. Un lieu qui va accueillir ce qui semblerait être de l'art manifeste, si je peux dire ça comme ça, c'est-à-dire des artistes classiques, des œuvres de Van Gogh, par exemple, que j'ai pu voir, vont aussi accueillir de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des jeux sous des formes plus type parc à thème, presque, j'ai envie de dire. Et du coup, je m'attendais à cette union, mais peut-être pas autant. Et puis, il y a aussi des choses qui m'ont surprise parmi les acteurs qui font ce mouvement ici, notamment leur rapport à l'art, qui est très différent de ce qu'on peut trouver en France, en tout cas de mon expérience. Une autre culture ici explique en partie l'écosystème américain de l'art, je pense, oui.
Peut-être qu'il y a des idées à faire venir dans la vieille Europe à la suite de cette résidence. Il y aura, ça, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler plus longuement ensemble, il y aura une œuvre qui sera installée au château éphémère en France, mais ça je m'avance un petit peu. Mais pour l'heure, et pour celles et ceux qui nous écoutent et qui souhaitent découvrir votre travail en France, il y a votre pièce Dead Pixel qui est actuellement exposée à la Maison des Cultures et des Arts de Lieusaint, dans le cadre de l'exposition Jeux vidéo d'hier et d'aujourd'hui, c'est jusqu'au 28 avril. Et puis une autre pièce qui va être présentée à Beauvais, ce sera Contre-ciel pour la 3e édition du festival Rêverie, qui est dédié aux arts numériques et qui se déroule cette année du 11 au 15 avril. Merci beaucoup Tatiana Villela dos Santos pour ce parfum californien grâce à vous. Vendredi prochain, nous nous prendrons des nouvelles d'Ude ou d'un autre résident à la Villa Albertine. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Émission préparée avec Aïssa Toundoy, Boris Pinot, Anouk Minaudier, Lucille Comeau, Marie Sorbier et Lise Ripoche.